Le journal Florence Paracuellos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. La misère des bidonvilles au nord de Paris. Des centaines de migrants sont évacués en ce moment même de leur campement de fortune. La préfecture va les mettre à l'abri avant d'examiner leur situation. Nous serons sur place dans un instant. À la une également, la privatisation de la Française des Jeux. Les actions sont en vente à partir d'aujourd'hui, mais certains redoutent une course au profit sur le dos des joueurs accros. La droite parisienne unie derrière Rachida Dati, candidate LR, investie pour la mairie. Votre invité Nicolas, lui, vient d'être élu à la tête du groupe LR à l'Assemblée.
Oui, il s'agit de Damien Abad. Il succède à ce poste à Christian Jacob. Il est au micro d'Inter dans 20 minutes. Vous pouvez dialoguer avec lui. Le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
Dans ce journal aussi, les témoignages nombreux auprès de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église. Lubrizol à l'arrêt, un vrai problème pour ses clients. L'histoire du bourdon qui a déclenché une alerte attentat dans un lycée d'Aix-en-Provence. Et Caruso façon Roberto Alagna, l'hommage d'un ténor à son illustre prédécesseur.
France Inter.
Est-ce ainsi que les hommes vivent, loin de chez eux, entassés sous des tentes sur le macadam parisien, 2500 à 3000 personnes, des hommes, des femmes, des enfants qui survivent sous le périphérique entre les portes de la chapelle et d'Aubervilliers et le long d'une avenue de Saint-Denis. Une partie d'entre eux est donc évacuée ce matin, comme le demandait la mairie, les associations et les riverains depuis des semaines. Yann Gallic, vous êtes porte de la chapelle où l'opération a commencé vers 6h. Bonjour Yann.
Bonjour.
Ces gens, Yann, vont commencer par être mis à l'abri.
Et ils sont des centaines de migrants à l'heure où je vous parle, à faire la queue et à se bousculer pour monter dans des cars, avec parfois un petit sac de voyage ou un baluchon sur le dos. Parmi eux, Jopran, 27 ans. Ce Sud-Soudanais a obtenu le statut de réfugié en France. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, il vivait dans la rue, au milieu des rats et des détritus, dans ce campement de fortune installé au bord du périphérique parisien.
C'est horrible. Je dors par terre. Des fois, je mange pas. C'est pas possible. Je ne suis pas venu ici pour rester comme ça, sans rien.
Vous savez où on va vous emmener avec ces bus?
Normalement, c'est un gymnase. Mais là, vraiment, j'ai besoin d'une maison.
Donc vous vous demandez un vrai logement pour vous?
Un vrai logement pour moi. J'ai besoin maintenant de travail. J'ai besoin d'une formation. Je veux vivre. Vraiment, c'est dur.
Plus d'un millier de réfugiés sont donc évacués ce matin. Ils seront logés dans une quinzaine de lieux mis à disposition ou réquisitionnés dans la capitale. Il était vraiment temps d'agir, selon Anne Hidalgo, la maire de Paris.
Bien sûr que ça a tardé, mais voilà, je prends les choses avec pragmatisme. Et enfin, aujourd'hui, on peut, envoyer un message qui est « il faut organiser l'accueil, et l'accueil digne, humanitaire ». Et un message aussi aux riverains de la Porte de la Chapelle, non, vous n'êtes pas abandonnés.
Le préfet de police de Paris, qui supervise cette évacuation, s'est montré, lui, très ferme pour empêcher l'installation de nouveaux campements, dit-il. Il veut mettre en place des patrouilles policières régulières et les autres campements du nord-est de la capitale devraient être évacués dans les prochaines semaines.
Yann Gallic, merci, en direct de la Porte de la Chapelle à Paris avec Gilles Gallinaro. Le secteur est en ce moment bouclé par la police. L'autoroute A1 est fermée entre Paris et Saint-Denis.
Il est 8h04, sera-t-il plus rentable, Florence, d'acheter des actions de la Française des Jeux que de jouer?
C'est sans doute un calcul à faire avant de se lancer et d'investir. Entre 16,50€ et 19,90€, l'action mise en vente ce matin et jusqu'au 19 novembre. Le prix final sera fixé après la période de souscription. Un tiers des actions est réservé aux particuliers, ce qui veut dire que les deux tiers restants seront vendus à des entreprises ou à des fonds d'investissement, ce qui inquiète les associations de lutte contre l'addiction au jeu. Laurent Kramer, elle redoute une recherche du profit à tout prix.
La Française des Jeux est aujourd'hui régulée en interne, directement par l'État, qui limite et encadre les jeux susceptibles de devenir addictifs. Toute augmentation de son chiffre d'affaires aurait donc des conséquences négatives sur les joueurs, souligne Jean-Michel Coste à l'Observatoire des Jeux.
Une progression de 1% du chiffre d'affaires de la Française des Jeux entraîne une augmentation d'environ 1000 joueurs qu'on appelle joueurs excessifs ou pathologiques et 6 ou 7 000 joueurs à risque modéré.
L'État actionne gestionnaire, mais responsable dans le même temps de la santé publique, a déjà fait retirer ou modifier des jeux de grattage jugés compulsifs et beaucoup trop addictifs, comme le Rapido, il y a 5 ans, rappelle le député Régis Joannicot, auteur de 2 rapports sur les jeux d'argent.
Parce que bien évidemment, avec une Française des Jeux privatisée, nous ne sommes pas à l'abri d'avoir des actionnaires privés qui soient beaucoup plus motivés par le retour sur investissement et le retour des dividendes, et qui, de ce fait, mènent une politique commerciale avec des jeux les plus rentables et donc les plus addictifs qui soient commercialisés.
Une fois privatisée, la FDJ assurera les mêmes garanties et l'État conservera avec 20% de ses actions un droit de regard sur la conduite de l'entreprise, assure Bercy. Les associations redoutent en revanche que l'Autorité nationale des jeux, attendue l'an prochain et censée contrôler la FDJ, soit dénuée de réel pouvoir d'action.
Et en vendant 52% du capital de l'entreprise, l'État attend des gains estimés entre 1,6 milliard et 2 milliards d'euros. 25 policiers et gendarmes morts dans l'exercice de leur mission en 2018 et presque 11 000 blessés, c'est 15% de plus que l'année précédente selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. C'est la plus forte hausse depuis 2009. Les débordements en marge du mouvement des Gilets jaunes sont passés par là. L'Église de France face aux abus sexuels. Fini le temps de l'omerta. Une commission indépendante a été créée il y a 1 an, dont le président Jean-Marc Sauvé sera auditionné par la Conférence des évêques de France à Lourdes aujourd'hui. Elle a reçu cette commission 2500 appels depuis le mois de juin, dont celui de Cécilia, abusée dans les années 70 au sein d'une communauté laïque par un prêtre qui n'a jamais été condamné. Delphine Evenou l'a rencontrée.
Quand elle s'installe en France en 73, Cécilia, californienne de 24 ans, n'est pas catholique. Elle vient aider des handicapés mentaux au sein de la communauté de l'Arche dans l'Oise. Au bout d'un an,
j'ai rencontré le Seigneur.
Alors elle se rapproche du prêtre de la communauté. Des échanges, aucun écart, pendant 3 ans.
Il y a un jour où il me dit, je pense que le Seigneur veut vous faire des grâces mystiques. L'accompagnement spirituel à partir de ce moment-là s'est fait la nuit, dans sa chambre, allongée sur son lit.
Les agressions sexuelles vont se reproduire durant 18 mois.
Je crois que j'ai pas vu venir, j'ai pas compris ce qui m'arrivait.
Une amie finit par lui ouvrir les yeux sur cette emprise spirituelle. Cécilia pense être la seule victime. Elle reste dans la communauté de l'Arche, mais loin du prêtre, et entame 35 ans de silence.
C'est quelque chose qui reste un questionnement pour moi. Pourquoi je n'ai jamais rien dit? Peut-être à cause de mon âge, mais aussi à l'époque, on ne parlait pas encore de ces choses-là.
Et puis en 2014, une religieuse brise l'omerta. Enquête interne, 14 témoignages contre le père Thomas Philippe, mort 20 ans plus tôt. Cécilia commence à parler.
Moi, j'arrive à une phase d'apaisement. Maintenant, je deviens plus actrice de cet effort de faire la lumière. Moi, je suis convaincue qu'il y a un problème systémique et que si vous avez eu 2000 appels, je suis sûre qu'il y a 20 fois plus de victimes encore en vie. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui ne sont pas encore prêts à témoigner.
Moi, au moins, j'ai eu cette chance, conclut la septuagénaire, de ne pas être détruite. Aujourd'hui, elle continue d'aller à la messe tous les dimanches.
Il y a un premier bilan de cette commission sauvée sur les abus sexuels dans l'Église est à lire en longueur sur franceinter.fr. Voilà de quoi effrayer un peu plus les vapoteurs. Une étude américaine publiée aujourd'hui pointe les risques des cigarettes électroniques pour le système cardiovasculaire à cause de la nicotine qui augmente la pression sanguine et le rythme cardiaque et des particules fines qui peuvent provoquer un durcissement des artères. Ces auteurs demandent davantage d'études sur les arômes contenus dans les liquides de vapotage. Fabriquer des additifs pour lubrifiants, on ne parle plus des cigarettes électroniques, mais de la vocation de l'usine Lubrizol de Rouen, à l'arrêt depuis l'incendie d'il y a 1 mois et demi. La direction et les salariés du site veulent maintenant reprendre le travail au plus vite. Ils s'inquiètent pour l'approvisionnement de leurs clients. Certains n'auront bientôt plus de quoi faire tourner leur production, Noé Miller.
Et cela risque d'arriver très vite, d'après eux.
Ça peut être à la fin du mois.
Alexandre est salarié chez Lubrizol.
On commence vraiment à avoir des problèmes de fourniture. Et on aura un impact forcément national sur ce point.
De nombreuses entreprises pourraient être touchées, celles qui utilisent des graisses, de l'huile pour faire fonctionner leurs produits ou bien leur chaîne de production. C'est ce qu'explique Gérard, un autre salarié de Lubrizol.
Les constructeurs automobiles vont devoir arrêter des chaînes parce qu'ils n'ont plus les lubrifiants pour mettre dans leur voiture de première monte. Et puis après, c'est les automobilistes eux-mêmes avec leur vidange. Et puis, je vous dis, il y a des gens qui peuvent être en arrêt au niveau du travail parce que, chômage technique, la boîte ne peut pas tourner parce qu'il n'y a pas de lubrifiant, parce que au niveau volume, en fait, on est une énorme entreprise qui fait un volume énorme et les concurrents peuvent prendre quelques contrats, peuvent pallier à quelques défauts, mais au niveau volume, ils ne peuvent pas doubler leur unité de production.
D'après nos informations, Total Lubrifiant est déjà confronté à une pénurie importante qui impacte la livraison de ses produits. Les salariés de Lubrizol espèrent donc reprendre la production rapidement, d'autant que pour eux, il n'y a aucun risque. La zone sinistrée va être isolée, sécurisée derrière un mur de 3 mètres de haut.
Voilà, et en attendant, les salariés sont toujours payés par la direction de l'usine Lubrizol. Airbnb s'apprête à vérifier les 7 millions de locations en ligne sur son site partout dans le monde. L'opération doit durer un an pour s'assurer de la véracité des annonces et éviter les arnaques. Airbnb qui s'engage dès le 15 décembre à rembourser intégralement les usagers dont la location ne serait pas satisfaisante.
Il est 8h11, Rachida Dati pour Paris.
Elle a été investie par les Républicains hier pour les municipales de mars prochain. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy ne laisse personne indifférent, y compris dans son propre camp. Mais en l'absence d'une autre candidature solide, la droite parisienne a bien dû se ranger derrière elle, Cécilia Arbenas.
Comme son mentor Nicolas Sarkozy, Rachida Dati entretient avec le parti Les Républicains des relations tumultueuses, faites de portes qui claquent, de vertes engueulades et de réconciliations enflammées. Éric Ciotti, président de la commission d'investiture.
Je crois qu'elle est tout le contraire d'une candidate par défaut. Elle est une candidate de conviction, d'enracinement, qui porte un projet pour Paris.
Elle prévoit d'armer une police municipale affectée à la délinquance du quotidien. Elle promet de diviser par deux le prix de la cantine scolaire et s'engage à garantir une meilleure qualité de l'air. Mais avant de s'attaquer aux particules fines, il lui faudra dompter les maires d'arrondissement. Le sénateur Roger Carucci.
Ou bien tout le monde fait un petit effort et on arrive à ouvrir et on arrive à rassembler et on avance. Ou certains disent non, non, non. Et on retourne dans les divisions.
Pour sa mise en orbite, Rachida Dati signe une première victoire. Après des années de brouille, son plus féroce opposant, l'influent Claude Guasguen, devient son conseiller politique.
C'est la meilleure candidate, de toute façon, il n'y avait qu'elle, à vrai dire. Hein. Que je vous assure, elle vous surprendra encore. Hein. Elle m'a surpris moi aussi. Alors, Dieu sait pour cent qu'on n'était pas bien ensemble. Hein.
Ce soir, Rachida Dati lancera sa campagne en toute simplicité chez l'ami Justin, un bistrot de quartier à Ménilmontant.
Voilà, la sécurité, la propreté, les familles, l'écologie et la santé sont les priorités de Rachida Dati. Une nouvelle grève à la SNCF, cette fois ce sont les contrôleurs des TGV Est qui débrayent pour des questions de changement d'horaire de travail. Un train sur quatre annulé, 3 sur 10 entre Paris et Strasbourg.
Quand un bourdon, Florence, un bourdon dans une classe déclenche une alerte attentat.
Et oui, la police dépêchée en urgence avant-hier au lycée Paul Cézanne d'Aix-en-Provence. À l'arrivée, tout le monde en rit et c'est David Ossiou qui nous raconte cette improbable histoire.
Depuis mardi soir, la vidéo de la classe en panique tourne en boucle.
Il y a un insecte qui est rentré. Bah, du coup, tout le monde s'est affolé et a crié dans la classe.
En fait, mon prof, il voulait pas qu'on ouvre la porte, il voulait pas qu'on ouvre la fenêtre. Du coup, bah, on est 31 filles dans une classe, du coup, on crie.
Le vol du bourdon dans cette classe de seconde effraie donc Romane et ses camarades. Un étage plus bas, des élèves de première et leur prof de philo entendent les cris.
Ça les a effrayés et donc ils ont cru que c'était un attentat, ils ont appelé la police.
Le commissariat reçoit aussi des appels de parents prévenus par leurs enfants. Ordre est donné aux équipages disponibles de foncer vers le lycée. Scène hallucinante racontée par Laura.
Ils sont tous arrivés, ensuite il y a des motos qui sont arrivées, ils sont garés vers ici, ils sont partis en courant dans le lycée. Un donc avec une arme, un autre avec un gilet pare-balles.
Un de ces policiers monte dans la classe du bourdon et là, tout devient plus clair. L'alerte est levée, avec au passage une petite leçon de l'officier.
Il s'est un peu moqué de nous. Ben, il nous a dit qu'il faudrait faire gaffe la prochaine fois et... Oh non, ça craint.
Voilà, c'est pas méchant les bourdons, hein, pourtant. Enfin, il est le plus grand ténor de l'histoire de l'opéra. Caruso, né en 1873. Sa voix est inimitable. C'est donc son style qu'a tenté de reproduire Roberto Alagna. Sébastien Stéphane Capron, son nouveau disque s'appelle tout simplement Caruso 1873.
Caruso, Roberto Alagna, l'a dans la peau depuis tout petit. Le ténor italien est mort en 1921, mais Roberto Alagna a toujours eu l'impression de vivre à ses côtés.
Mon arrière-grand-mère, donc, que j'ai connue jusqu'à l'âge de 20 ans, a connu Caruso à travers son mari. On l'appelait Mr. Jimmy, il était ténor. Il est né à New York, il est décédé à New York. Et lui a rencontré Caruso dans son magasin. Il avait un magasin de cuir. Et Caruso, un jour, est venu à Little Italy pour acheter des cadeaux au personnel du Metropolitan, des choristes, donc des petits portefeuilles, tout ça. Quand il est rentré, mon arrière-grand-père l'a vu, il l'a reconnu tout de suite, commendatore et machin. Il a dit, oh là, moi aussi, je suis ténor. Et Caruso a dit, ah bon, bah, chante-moi quelque chose. Il a fermé son magasin et il lui a chanté un air de Don Pasquale. J'ai grandi là-dedans et ensuite, toute ma vie, je me suis, shooté à Caruso.
Roberto Alagna n'a pas cherché à imiter la voix de Caruso. Il a beaucoup réécouté les enregistrements de l'époque pour retrouver le tempo du ténor. Et avec l'arrangeur Ivan Cassar, ils ont respecté son style. L'album s'ouvre par le Caruso de Lucio Dalla, un titre pop, mais qui, avec Roberto Alagna, sonne classique. Il sonne Caruso.
Marie-Pierre Planchon se pâme.
Oui, oui, elle se pâme et elle fredonne. Oui, oui.
Et fredonne, bon, pas tout à fait aussi bien que Roberto Alagna.
C'est sympa pour elle.
Ni Caruso, oui, non, mais bon, voilà, elle n'est pas Caruso. Qui vaut Caruso 1873.
La Allez-y.
Album, le demeurant, vous n'êtes pas à l'Opéra Bastille dans non. Don Carlo de Verdi, contrairement à Roberto Alagna.
Merci Florence Paracuelos.